Variation en noir. Roman noir sur Radio PFM. Et littérature policière au pluriel. Variation en noir dans Variation le dernier vendredi du mois, Guy Le Polarski au micro, vous écoutez Radio PFM et vous avez rendez-vous avec les littératures policières. Variation en noir, c'est une émission réalisée en collaboration avec 813, l'association des amis des littératures policières et en particulier avec un membre éminent de cette association, Hervé Delouche, qui est avec nous au téléphone depuis la capitale. Hervé, bonjour. Hervé, bonjour et merci d'être fidèle à notre rendez-vous. Au sommaire, Hervé, de ce Variation en noir d'octobre 2019, et cette fois vous n'y échapperez pas, dans l'ombre du brasier de Hervé Lecor aux éditions Rivage. Et puis, si nous avons le temps, chez Gallmeister, éditeur aujourd'hui incontournable pour qui s'intéresse aux littératures policières from the US, Les mangeurs d'argile de Peter Faris. Et si nous n'avons pas le temps, eh bien, ce sera pour le mois prochain. Hervé, mais avant tout, dans ce Variation en noir, nous avons souhaité saluer l'écrivain américain Nick Toches, qui est mort à 69 ans dimanche 20 octobre. Historien du roman.
Il avait tout juste à 3 jours près, il aurait eu 70 ans, si je ne me trompe pas. Oui.
Et... Donc, historien du rock, chroniqueur pour commencer, hein, chroniqueur journaliste dans des magazines comme Rolling Stone, Crime ou Fusion. Il a fait partie d'une équipe, là, ce qui s'est appelé les Braillards, avec notamment Lester Banks, à la fin des années 60, début des années 70. Donc, un engagement qui va simplement au-delà de la chronique. De la chronique musicale, Nick Toches expliquait au Monde, la jeunesse pour moi fut une période très déprimante. Pour le reste, j'ai passé cette jeunesse à boire, à prendre des drogues, à baiser à droite à gauche. J'ai commencé à fumer des clopes et à boire à la même époque, vers 12 ans. Ensuite, je suis passé à l'herbe et au cachet. J'alternais les amphétamines et les calmants. J'adorais tous les trucs qu'on ne trouve plus aujourd'hui. Je ne prends presque plus d'héroïne, pas plus de 3 fois par an, expliquait-il. Donc c'était dans une interview au Monde en 2001. Quelqu'un d'important aussi sur le versant noir, on connaît donc
oui,
le...
Oui, absolument. Oui, c'est Nick Toches, c'est ça qui est très fort avec lui. C'est-à-dire il est très important pour parler de... sur différents versants de la culture populaire américaine. J'ajouterais à ce que tu as dit, au moment de son décès, il y a eu un beau papier de Philippe Garnier, qui le connaissait bien et qui lui rendait assez régulièrement visite, dans Libération, qui dit... Toches était aussi à l'aise pour parler sécurité ou échange boursier avec un financier comme Michel Essendona, le banquier du pape, que rock et pizza avec Dick Manitoba, le chanteur des Dictators, ou Ben Zedrine et Percodan avec l'acteur Jerry Lewis. Toches était philosophe, romancier, journaliste, philologue, musicologue, mafia watcher, historien, rat de bibliothèque. Sa connaissance des bars était plus que sérieuse, elle était ancestrale. À 14 ans, son père le laissait s'occuper du bar familial à Newark. Et voilà, Nick Toches, il y a Bon, il est, tu l'as déjà évoqué, il est l'auteur de biographies avec un ton très, très personnel, de biographies très documentées, mais avec un ton très personnel, même par rapport à d'autres chroniqueurs de rock et autres. Je crois que si je ne m'abuse, il avait commencé avec Country, les racines oui. tordues du rock'n'roll. Mm-hmm. Ça devait être, je sais pas, au milieu des années 70, quelque chose comme ça.
C'est ça.
Ça, c'était sur la musique. Sur la musique, on a eu aussi...
Héros oubliés du rock'n'roll.
Les héros oubliés du rock'n'roll, c'est des livres qu'on trouve chez les excellentes éditions.
Tout à fait.
Alia, je crois. Hein.
Il faut les saluer, hein, parce qu'il y a à la fois ce travail éditorial tourné vers la musique, pour les éditions Alia, mais d'une manière plus générale pour la littérature. Et donc, ils ont aussi édité d'autres romans.
Ils font un travail absolument merveilleux, on est bien d'accord. Pour revenir à Nick Tosheuse, il avait aussi fait, je crois, vers la fin des années 70 ou début 80, Hellfire.
Voilà.
Garnier dit que c'est la plus belle biographie d'un chanteur de rock'n'roll jamais écrite. C'était sur Jerry Lee Lewis. Enfin bon, il y a sur ce versant-là une connaissance très pénétrante et des livres absolument vraiment superbes. Il y a eu aussi son parmi d'autres choses, mais dans les biographies et toujours dans la culture populaire, il s'est intéressé à l'acteur Dean Martin, l'acteur mythique, le crooner mythique. Je crois que c'est un livre qui s'appelle Dino,
qui a
été publié aux éditions Rivage.
Oui, en écrit noir, effectivement.
Et qui montrait, au-delà de l'image mythique du crooner, qui montrait la mafia italienne a toujours été derrière l'ascension de Dean Martin. Et dans ce livre, d'ailleurs, on trouvait aussi le très important rôle joué par cette même mafia dans l'élection de John Fitzgerald Kennedy à la présidence de la République américaine. Voilà, il y a eu aussi... Night Train, un livre consacré au boxeur américain Sonny Liston. Voilà. Et
Je reviens pour terminer sur le volet musical de son œuvre, Hellfire, hein, donc un remarquable ouvrage et aussi remarquablement bien édité par Alia.
Oui.
Et donc il y a une introduction de Gray Marcus qui est aussi une référence en matière de critique rock. Et il écrit, Graham Marcus, « Je veux que les choses soient bien claires. Hellfire de Nick Tosheuse est le plus beau livre jamais écrit sur un interprète de rock'n'roll. Il est sans égal. Mais il est loin de n'être que cela. Tôt ou tard, Hellfire sera reconnu comme un classique américain. » C'est ainsi que débute la préface de Graham Marcus à cet ouvrage qui est vraiment très puissant sur Jerry Lee Lewis, pianiste rocker américain. Deux romans.
Et ben voilà, parce que on a parlé de mafia et il y a deux romans qui ont vraiment été très très forts, très très salués, qui ont été vraiment des vrais coups de cœur pour ceux qui les découvraient à leur parution. Le premier, c'est assez marrant parce que je crois que si je me trompe pas, le premier à avoir repéré, ça va surprendre hein, peut-être, mais le premier à avoir repéré Nick Tosheuse, c'était Gérard de Villiers, parce que dans les années 80, il y avait les éditions Gérard de Villiers avaient créé une collection qui s'appelait Polar USA. dans laquelle il a, je crois, le premier publié des gens comme Eugène Hidzi, comme James Grady, comme James Lee Burke, voilà, avec des traductions absolument abominables et des coupes. Mais voilà, il y avait eu le roman de un roman qui alors intitulé Les pièges de la nuit, je crois, et que par bonheur Patrick Reynal reprendra quelque temps après et fera retraduire, et qui est La religion des ratés,
oui.
Qui est dans lequel on découvre un New York de la rue avec les gens du quotidien, les gens du peuple, leur langage, le racisme, le machisme aussi, et évidemment l'empreinte de la mafia, et voilà une espèce des livres à la fois extrêmement authentiques et à l'écriture très puissante. Et puis après il y aura
Trinité.
Il est sorti en France, en tout cas à peu près simultanément.
Oui, en 1996.
Voilà. Et ben voilà, dans la très très belle collection La Noire, dont nous avons déjà maintes fois parlé ici.
C'était, je pense, un des premiers titres de La Noire.
Voilà, qui mettait aux prises.
Trinité, Hervé, on peut le dire, c'est quand même pour moi un roman incontournable sur les nouvelles générations de mafieux new-yorkais. Et vraiment, pour celles et ceux qui s'intéressent à ces questions, il faut absolument lire Nick Toschies et son Trinité.
Il faut absolument lire Nick Toschies pour ça. De toute façon, par ailleurs... cet homme, moi je l'ai croisé une fois, mais cet homme assez très mince, stoïque, avec un peu une allure et une tête de héros du rock'n'roll.
Une gueule, on peut le dire. Hein. D'ailleurs, il y a un des derniers titres publiés chez Alia, Réserve ta dernière danse pour Satan, hein, de Nick Toschies, avec une photo.
Il était lui-même rock'n'roll, mais... il y a aussi une chose intéressante, c'est notre cher ami Jean-Bernard Puy, dans sa brève histoire du roman noir qui le notait, c'est que aussi, on a tous été évidemment bercés, marqués par Le Parrain de Coppola et autres, et cette figure-là. Et Puy, dans son livre, il note cela, Puy qui aimait beaucoup Nick Toschies aussi, plus près de nous, à propos de la mafia et de ses personnages complexes, à mi-chemin entre admiration et répulsion, il faut citer Nick Toschies, un anti-Mario Puzo. Mario Puzo, c'est celui qui a écrit Le Parrain, qui a été adapté. Spécialiste de musique et surtout de rock'n'roll. Avec Trinité, Toschies dresse enfin un portrait contemporain de l'honorable famille, loin des poncifs lassants du Parrain, où les nouvelles générations, les fils d'immigrés italiens, se sont américanisés, ont perdu les valeurs ancestrales, tout en se sentant coupables de les avoir peu à peu abandonnés. Et cet auteur, lui-même issu de la minorité italienne, sait de quoi il parle.
Oui, vraiment un très bon résumé, hein, de Jean-Bernard, comme à son habitude.
Oui.
Et effectivement, il faut lire ces deux romans, Trinité et La religion des ratés.
Oui, il faut lire la religion des ratés et Trinité, qu'on trouve maintenant en folio. Et puis, je pense que voilà que ce soit pour les amoureux du cinéma et bien sûr les amoureux du rock'n'roll, et je pense qu'en dehors de nous deux, il y en a forcément, et de Bernard, il y en a forcément qui écoute, il faut aussi lire ces autres livres
Ah oui, tout à fait, tout à fait. Hellfire notamment, hein, mais vraiment.
Ah c'est, oui, c'est Hellfire, le... c'est voilà.
Hein, alors,
ce domaine-là, c'est voilà.
On va écouter Nick Toschis, oui, qui était présent à Paris en 2001 à l'occasion d'une exposition sur les années pop, une exposition qui le laissait assez dubitatif, mais il avait accepté de venir parce que, et donc c'est ce qu'il avait expliqué en interview, parce que j'aime Paris et que c'est une bonne occasion de jouer ici avec mes musiciens et de retrouver de vieux amis. Donc Nick Toschis en performance avec Patti Smith.
Wild leaves are falling, falling to the ground. Every leaf a moment, a light upon the crown, and we'll all be wearing in a time unbound. And while leaves are falling, falling to the ground, every word that's spoken, every sad decree, every vow that's broken, every golden deed, all the parts we're playing, binding as the reed, and while leaves are falling. Wild, wild leaves.
I am he who wore the cloak that gives light in darkness and that unites the goddesses who are in me by means of the magic that is in my mouth. My fallen enemy, who was with me in the valley, will not be raised up, and I am content. I abhor the eastern land. I will not enter the place of destruction. None shall bring me offerings of what the gods detest. For I pass into the Milky Way, whence I did come.
All we knew, spirits that are mentioned from a time unbound. Wild leaves are falling.
Fuck the living, fuck the dead dans Variation en noir. Vous écoutez Radio PFN. Oui, Hervé, hein, donc fuck la vie, fuck la mort. Une performance de Nick Toschis enregistrée au Centre Pompidou le 24 mars 2001. C'est disponible en disque. Les disques du Soleil et de l'Acier, édition Alia, distribution Harmonia Mundi. Voilà.
Bien.
Ouais. Hervé, nous y voilà, hein, parce que quand même, ce livre, bien, il est à nos côtés dans Variation en noir depuis un moment, et voilà, hein, on prend le quart d'heure pour en parler. Donc c'est le dernier roman de Hervé Lecor. Il est sorti, je pense, en début 2019, dans l'ombre du brasier, aux éditions Rivage, Rivage Noir, grand format, grand roman, gros roman aussi, 500 pages, on a vraiment le temps de s'installer dans ce roman. C'est un roman historique noir qui parle à la fois de la grande histoire, mais qui parle aussi de petites histoires sur lesquelles il n'y aurait pas justement de grandes histoires. Donc l'histoire ici, c'est celle de la commune.
Oui, on peut peut-être dire que même si les livres se lisent évidemment totalement indépendamment, mais qu'il n'y a pas loin de 15 ans, Hervé Lecor nous avait donné son premier livre aux éditions Rivage, d'ailleurs, qui était L'homme aux lèvres de saphir, qui à l'époque remporta le trophée 813, et où on était dans ce Second Empire à Paris, dans ce Second Empire dont c'était le crépuscule, enfin qui se terminait en 1870, juste avant l'éclosion, l'irruption, le surgissement de la commune. Et là, on est en fait quelques mois après, dans les 10 derniers jours, on est au crépuscule de cette utopie en acte qu'était la commune de Paris. Mmh. Et on va y retrouver un personnage, notamment.
Oui, donc, bon, alors le cadre historique, effectivement, il faut le préciser, la commune. Et au-delà, en fin de compte, de l'image d'une prise de pouvoir révolutionnaire réprimée violemment dans le sang, la commune reste un épisode complexe, quand même, de l'histoire, de l'histoire et des mouvements sociaux. Et donc, Hervé Lecor, s'attelle notamment à la fin de la commune. Et moi, je trouve que ce qui est fort, c'est donc il nous plonge de manière très réaliste dans ces derniers jours, dans la semaine sanglante, la fin de la commune. Et pourtant, il le fait sans idolâtrie. Il y a aussi des salauds du côté des communards, et bien entendu sans manichéisme. Il n'y a pas les bons d'un côté, les mauvais de l'autre, d'une manière caricaturale, même si on sent bien que le cœur balance du côté des communards, bien entendu, pour Hervé Lecor. Mais on n'est pas dans un, en fin de compte, on n'est pas dans un ouvrage d'idolâtrie manichéen. Hervé, je ne sais pas ce que tu en penses.
Non, absolument pas. C'est ça qui était particulièrement, j'allais dire, disons-le, gonflé de la part de ce romancier, d'Hervé Lecor, c'est que la commune, bien évidemment, énormément de choses ont été écrites sur la commune, y compris d'ailleurs, de belles choses romanesques, comme le Cri du peuple de Jean Vautrin. Mais il y a, et puis il y a eu pendant... La commune, c'est quand même aussi une utopie, même si vaincue, qui a accédé au rang de mythe pour, en tout cas, la gauche révolutionnaire au sens large, pendant de la fin du XIXe siècle qui a couru pendant tout le XXe quand même, et évidemment qui a entretenu aussi beaucoup de vision univoque, unilatérale, mythologique, c'est-à-dire, et Hervé Lecor, qui est bien évidemment, de par sa personne, ses engagements, un héritier d'une, je pense qu'on peut le dire, cette utopie qu'a portée la commune, en même temps arrive à faire une fiction, un roman, qui est gorgé de toutes les contradictions, toutes les désillusions, qui est une vision non pas géographique, mais plus peut-être plus mélancolique et plus en questionnement. Et c'est ça qui est un tour de force. Un autre tour de force, c'est que c'est un roman qui est extrêmement documenté, bien évidemment, c'est-à-dire que tout est, je pense, il y a une très grande exactitude du Paris de l'époque écrit raconté par cet écrivain bordelais qui est Lecor, mais en même temps, ça ne se sent pas, si on peut dire. C'est-à-dire, ça n'est pas, il n'y a aucune lourdeur idéologique, il n'y a aucune lourdeur historico-descriptive, documentariste. Il arrive en plus à hauteur d'homme, au ras du pavé, et justement le roman se.
C'est un peu la vie quotidienne.
La vie continue, car sinon je vais occuper le terrain. Là.
Non, mais c'est un peu la vie quotidienne au temps de la commune, de la chute de la commune, oui. Parce que bon, il y a des détails sur le quotidien. Il y a quand même toujours des bistrots, hein, des gargotes où on mange un morceau entre deux interventions sur des barricades, etc. Enfin, il y a ce quotidien. Et puis il y a un bazar. Enfin, moi, ce qui m'a impressionné, c'est le bazar, quoi. Il y a une désorganisation complète. Et en fin de compte, tout le monde est, enfin, chacun est livré à lui-même dans cette période.
C'est à la fois, il y a un roman, il y a un livre de guerre, enfin, puisque il y a 60 000, je crois, soldats versaillais qui assaillent. Paris, qui commence à pénétrer et dont on va au fil du roman voir la progression et les massacres. Et puis il y a quelques milliers de communards et le peuple et de soldats communards et le peuple de Paris dont on voit aussi la vie qui continue, les minuscules espoirs, les tranches de vie. Qui sont à travers ça.
Hervé, il y a aussi ceux qui attendent la fin de la commune, des Parisiens.
Eh bien, évidemment, ouais. Parce qu'il y en a qui aimeraient que le chaos, entre guillemets, se termine.
Oui.
Il ne sert pas leurs envies, leurs intérêts, ce qu'on veut. Et puis, il y a aussi ce tour de force d'arriver à travers ce qui est un roman historique, un roman d'aventure, de créer aussi un roman policier à l'intérieur, un polar, puisque, évidemment, le grand chaos qu'est le siège de la commune est aussi... un lieu favorable pour protéger de petits chaos et des crimes. Et il va donc y avoir, c'est là qu'on va retrouver un personnage qu'on avait quitté, un personnage de psychopathe qu'on avait quitté dans l'homme lèvre de saphir, plus jeune. Et il va y avoir des enlèvements de femmes et un policier, un policier de la commune.
Un délégué, soyons précis, Hervé, un délégué à la sûreté, Antoine Roch.
Un délégué Roch. À la sûreté, parce que...
Antoine Roch, oui, élu délégué à la sûreté il y a tout juste un mois, relieur de métier, il ne voulait pas de cette charge en vertu d'une détestation profonde ancienne de toute forme de police, mais l'Assemblée l'a jugé le plus sage et le plus avisé. Et puis la commune avait besoin à cette place d'un homme fiable comme lui.
Oui, mais tout à fait, c'est Antoine Roch qui est un des personnages centraux de ce roman et qui va donc, et c'est ça aussi qui était intéressant parce que je crois très peu de choses ont été écrites et ont été sur le quelle police s'étaient donnée aussi les communards on va suivre cette histoire aussi qui maintient évidemment que le roman, il n'y a pas de suspense par rapport à l'histoire car tout le monde sait comment va se terminer la commune, la semaine sanglante. Mais par contre, Hervé Lecor arrive à bâtir aussi un polar, un roman noir à l'intérieur de ça, avec un suspense qui est bien réel et avoir un roman qui est extrêmement... touchant dans le sens où il est au plus près des hommes et des femmes, très authentique et qui est à mon avis à la fois très mélancolique et en même temps, maintenant, j'allais dire, pas non plus, ce n'est pas non plus un chant désespéré. Il y a un peu de.
Non, tout à fait. Et je pense que la fin, bon, on ne va pas bien sûr parler de la fin du roman, mais. Elle est importante de ce point de vue-là. Mais je reviens à Antoine Roch, donc notre délégué à la sûreté. Là, c'est quand même, je trouve, un tour de force d'Hervé Lecor, parce que donc cet Antoine Roch, il a un idéal par rapport à la commune, donc il accepte cette charge bien malgré lui, et puis avec une vision pour la mise en œuvre de cette responsabilité, mais très vite il se rend compte qu'il se retrouve dans la situation du flic flic habituel, donc qui voilà, sujet à des suspicions de la part des autres communards, et c'est étonnant, c'est étonnant
dans des milieux révolutionnaires. Évidemment, et c'est ça qui est très intéressant, c'est à la fois d'avoir réussi à montrer un personnage de flic à l'intérieur de la commune et qui soit tout à fait réaliste, et en même temps de montrer le côté d'un personnage qui a des convictions, qui est mu par le fait qu'il faut qu'il retrouve notamment une jeune femme, Caroline, qui a été enlevée, qui est séquestrée, et il est mu par cette quête, et en même temps il est plein de doutes, c'est un personnage en porte-à-faux, et donc c'est un personnage forcément très intéressant. C'est ce type de personnages sont quand même, à mon avis, les plus intéressants que nous donne à voir le roman noir.
Alors Hervé, donc ce livre, je le disais, est sorti début 2019. Il a déjà son parcours. Je sais que tu as rencontré récemment Hervé Lecor. Comment ça se passe, l'accueil du livre, sa rencontre avec les lecteurs.
Oui. Est excellent. Je pense que ça, c'est mon sentiment, mais moi je pense que Hervé Lecor, c'est vraiment un des auteurs les plus importants, les plus formidables de l'époque, parce qu'on en a déjà parlé, mais il arrive à la fois, dans un livre précédent qui était Prendre les loups pour des chiens, à nous donner un roman très contemporain qui se passe dans ces zones qui ne sont pas les zones urbaines, qui ne sont pas non plus vraiment la campagne, et qui est une sorte d'hommage au roman noir américain, à la Jim Thompson, ou plus près de nous, à la Benjamin Whitmer, ou à la Peter Farris.
Peter Farris, on en parlera le mois prochain, Hervé.
Oui, j'ai compris. Et puis d'un autre côté, il arrive à nous donner ce genre de romans historiques, mais qui redisons-le, sont pas du tout des romans en costume où il y aurait juste, allez hop, on aurait l'exactitude du pourpoint de la personne et tout ça, mais qui sont des romans qui, même s'ils se passent dans la dernière partie du 19e siècle, sont à la fois d'une très forte actualité quant aux questions qu'il remue, je ne sais pas ce que tu en penses, toi, mais...
Ah bah c'est non mais je partage complètement ton avis, Hervé. C'est bon, je suis rentré, je l'ai pas lu tout de suite finalement, je l'ai lu après l'été là, et c'est tout, je me suis laissé absorber. Je te dis, j'étais vraiment impressionné par cette capacité à mêler la grande histoire de manière très fine, et puis ces petites histoires. Bon, on suit bien entendu aussi un combattant de la commune, Nicolas Bellec, sa bien-aimée, oui, qui est infirmière. Donc on est plongé dans le quotidien de cette semaine sanglante. Et c'est un livre qu'il nous faut recommander chaleureusement, fortement, à tout le monde.
Nous aimons tous les deux un écrivain comme Victor Hugo, par exemple. Je pense, il ne s'agit pas de faire des comparaisons, mais je pense que des livres comme Dans l'ombre du brasier, ils ont cette ampleur de cette ampleur à la fois de tragique, de beauté, de roman d'aventure, de personnages pour lesquels, fussent-ils des salauds d'ailleurs, mais auxquels on s'attache, en fait, ils sont pleins de. Ce sont des romans à la fois, même quand la mort. C'est plus que rosé, même quand elle est à chaque coin de rue, comme dans L'ombre du brasier, évidemment. Ces personnages sont tous pleins de vie, en fait.
Écoute, Hervé, je pense que c'est une très bonne remarque là, que tu viens de faire, et ça doit donner vraiment envie à toutes et à tous de découvrir, donc, Dans l'ombre, si ce n'est pas fait, Dans l'ombre du brasier de Hervé Lecor. Voilà, c'était Variation en noir dans Variation, le dernier vendredi du mois, une émission de Radio PFM réalisée en collaboration avec 813, l'association des amis des littératures policières, et en particulier avec Hervé Delouche. Hervé, au revoir.
Eh bien, au revoir Guy, au revoir Bernard, et au revoir à tous. Bonne lecture.
Et rendez-vous donc dans un mois pour de nouvelles Variations en noir.